Voici ce qui m'a été suggéré, c'est d'aborder l'adoration dans son lien avec la miséricorde. Et voilà, j'ai dit oui, mais sans trop savoir si j'aurais le temps de préparer. Et en fait, bon, j'ai réussi à prendre un peu de temps. Alors, je m'inspire essentiellement de Sainte Faustine, puisque dans le petit journal de Sainte Faustine, eh bien, il y a énormément d'éléments. En fait, je vais citer pas mal de passages de Sainte Faustine. Voilà. Puis après, quelques autres choses, mais voilà, c'est l'essentiel. Déjà, si vous entendez bien, tant mieux. Si vous entendez mal, approchez-vous, parce que comme on n'est pas très nombreux, on peut se tasser. Voilà. Alors déjà, se rappeler qu'est-ce que la miséricorde. Je pense que en cette année de la miséricorde, on vous l'a dit déjà plusieurs fois. La miséricorde vient du mot. Alors on aurait pu remonter dans la Bible. Dans la Bible, c'est l'amour avec le cœur, avec les entrailles, comme une mère qui aime ses enfants. C'est du même type. Et on sait qu'une mère qui aime ses enfants est capable de pardonner énormément de choses à ses enfants, de passer sur énormément de choses. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a souvent le père à côté qui lui est plus rigoureux pour aider l'enfant à avancer, à grandir. Et donc en latin, miséricorde, ça vient de pitié, miserere, et puis cor, cœur. Donc c'est une attitude du cœur, de la pitié du cœur, donc c'est pareil, quelque chose de très intérieur, très charnel. On voit qu'on n'est pas simplement dans le rationnel, donc on n'est pas simplement dans une réflexion où on dit il faut pas. C'est beaucoup plus intérieur et une démarche de notre être tout entier. Alors on compare souvent miséricorde à la compassion. C'est-à-dire cette attitude d'être capable de souffrir avec. Alors c'est pareil, une mère, ça parle bien, même les parents en général, par rapport à ce que vivent leurs enfants, ou bien dans une famille, on souffre avec, aisément, donc c'est cette capacité de souffrir avec l'autre. Alors la miséricorde dans la Bible est d'abord attribuée à Dieu, mais ensuite il y a une invitation explicite de Jésus pour que nous en vivions. Et que nous soyons capables d'aimer avec un amour viscéral, un amour intérieur, un amour charnel, un amour qui nous prend aux tripes, ceux qui sont autour de nous. Et d'expérimenter aussi cette miséricorde de Dieu aussi par rapport à nous. D'ailleurs, le sens des choses, c'est d'abord l'expérience de Dieu, la miséricorde de Dieu, pour pouvoir être miséricordieux avec nos frères. La miséricorde est donc un pilier qui soutient la vie de l'Église, notamment dans le témoignage du pardon. Dans son action pastorale, comme dira le pape François, tout devrait être développé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. C'est-à-dire tout devrait être imprégné de miséricorde dans notre action pastorale. De cette attitude de miséricorde, de ce témoignage de miséricorde, eh bien, dépend la crédibilité de l'Église et le témoignage chrétien. Voilà. Alors, la miséricorde jusqu'où ? La miséricorde, en tout cas, pour Dieu, on sait qu'elle est grande. Plus ou moins, chacun, on met la taille de la miséricorde un peu plus ou moins grande selon nos expériences de vie ou selon nos expériences spirituelles. Et puis, nous, après, par rapport aux autres, jusqu'où faut-il aller dans la miséricorde ? Alors, le pape François, dans une interview qui a été donnée il y a quelque temps, le nom de Dieu est miséricorde, dont on a entendu parler sur le moment, puis après, comme toutes les choses, ça passe. Bon, il dit ceci. Donc, la question qui lui est posée, c'est « Pensez-vous à des prêtres miséricordieux ? Est-ce que vous en avez connu ? Est-ce que vous vous en êtes inspiré ?» Il y en a beaucoup. Je viens d'évoquer le père Duarte, Je peux citer aussi Don Enrico Pozzoli, salésien, qui m'a baptisé et qui avait marié mes parents. Il était le confesseur miséricordieux. Tout le monde allait le voir, il visitait les maisons des salésiens. J'ai rencontré plusieurs confesseurs comme celui-là. Je me souviens d'un grand confesseur, plus jeune que moi, un père capucin, qui exerçait son ministère à Buenos Aires. Il est venu me voir un jour, il voulait me parler. Il m'a dit « Je voudrais que tu m'aides. J'ai toujours une multitude de gens devant le confessionnal, des gens de toutes sortes, humbles et moins humbles, mais aussi de nombreux prêtres. Je pardonne beaucoup. Et parfois j'ai des scrupules. Je me demande si je n'ai pas trop pardonné. » Nous avons parlé de la miséricorde et je lui ai demandé ce qu'il faisait quand il éprouvait ses scrupules. Il m'a répondu « Je vais dans notre chapelle, devant le tabernacle, et je dis à Jésus, « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai trop pardonné. Mais c'est toi qui m'as donné le mauvais exemple. » Ça, je ne l'oublierai jamais, dit le pape François. Lorsqu'un prêtre vit ainsi la miséricorde dans son propre cœur, il peut l'offrir aux autres. Un jour, j'ai lu une homélie de celui qui était alors le cardinal Albino Luciani, sur le père Léopold de Mendic, donc le cardinal Albino Luciani qui deviendra Jean-Paul Ier. Sur le père Léopold de Mendic, qui est un grand confesseur, que Paul VI venait de béatifier. Il évoquait quelque chose de très proche de ce que je viens de vous raconter. « Nous sommes tous des pécheurs, » disait Luciani. À cette occasion, le père Léopold le savait très bien. Il faut prendre acte de cette triste réalité qui est la nôtre. Nul ne peut, sur le long terme, éviter les fautes, petites ou grandes. Pourtant, comme le disait saint François de Sales, si tu as un petit âne et que dans la rue il glisse sur les pavés et tombe, que dois-tu faire? Tu ne vas pas le rosser à coups de bâton. Il est déjà assez malheureux comme ça. Il faut que tu le prennes par le licou et que tu lui dises « Allez, reprenons la route. On se remet en marche. Tu feras davantage attention la prochaine fois. » C'est cela la bonne méthode. Et cette méthode, le père Léopold de Mendic l'a parfaitement appliquée. Un de mes amis, un prêtre qui allait se confesser, à lui a dit « Mon père, vous êtes trop indulgent. Moi, je me confesse volontiers à vous, mais j'ai l'impression que vous êtes trop indulgent. » Et le père Léopold de répondre « Mais qui a été indulgent, mon fils ? C'est le Seigneur qui a été indulgent. Moi, je ne suis pas mort pour les pécheurs. C'est le Seigneur qui est mort pour eux. S'il a été aussi indulgent avec le larron, il ne pouvait pas en être autrement avec les autres. » Voilà l'homélie qu'a tenue celui qui était alors cardinal Luciani sur Léopold Mendic, plus tard Léopold Mendic, donc plus tard canonisé par Jean-Paul II. Voilà, c'est juste pour illustrer un petit peu la question de la limite de la miséricorde. Donc vous aurez compris que on ne paye jamais par excès. Il y a quelque chose qu'on peut se dire aussi, c'est que Dieu va jamais nous reprocher d'avoir trop pardonné quand on arrivera au ciel. Ça, c'est clair. Il nous reprochera d'avoir été trop dur, probablement, sur certaines situations, mais jamais d'être trop pardonné. Donc voilà, donc n'hésitons pas à avancer, et l'Eucharistie est là pour nous y aider. Donc vous les connaissez, hein, la miséricorde s'incarne pour nous chrétiens dans des œuvres de miséricorde concrètes, des œuvres concrètes que le pape a rappelées, le pape François, mais qui sont présentes dans le Nouveau Testament. Donc je vous les rappelle, hein, simplement rapidement. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et puis les œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, ça on en a toujours à la portée de main, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà. Donc, on les retrouve très facilement, hein, puisque c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, cette liste, et dans les catéchismes, le pape les a rappelés il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, l'Eucharistie, alors je prends vraiment l'Eucharistie dans le sens de la présence eucharistique, mais qui ne peut pas être dissociée de la célébration eucharistique. On est d'accord, quand on est à l'adoration, on est dans la continuité de la célébration de la messe. Si on va à la messe le dimanche, on est dans la continuité de la messe dominicale et on prend du temps pour finalement accueillir davantage la grâce qui nous a été donnée à la messe dominicale, ce que nous avons vécu à la messe dominicale. Donc c'est un grand cadeau que d'avoir cette possibilité-là devant le Saint-Sacrement, le Seigneur est venu présent dans cette hostie au moment de la messe, et bien de pouvoir ensuite prendre ce temps, mais inséparablement de la célébration eucharistique. Et donc l'Eucharistie, dans son adoration et dans sa célébration, est une source et un modèle de miséricorde. Il nous faut contempler de quel amour Dieu nous a aimés. Alors, pour être miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux, il y a deux sacrements qui nous ont été donnés pour cheminer sur ce chemin. Le premier, que je vais faire vite, puis ensuite le deuxième, je vais être plus long. Le premier, c'est le sacrement de réconciliation. C'est les deux sacrements réitérables dans la vie des chrétiens. Et quand il y a un déséquilibre entre les deux, en général, c'est plus compliqué pour avancer sereinement dans la sainteté. Dans le sacrement de la réconciliation, le catéchisme de l'Église catholique dit ceci au numéro 1847. Dieu nous a créés sans nous. Il n'a pas voulu nous sauver sans nous. Il ne nous a pas demandé notre avis pour nous créer. Par contre, il ne peut pas nous sauver sans nous. Alors ça, c'est une citation de saint Augustin. L'accueil de sa miséricorde réclame de nous l'aveu de nos fautes. Si nous disons « nous n'avons pas péché », nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. Donc ça, c'est tiré de la première épître de saint Jean. Mais on voit bien que pour faire l'expérience de la miséricorde et pour être sauvé, il faut reconnaître qu'on en a besoin. Et donc il faut reconnaître son propre péché, son péché. Le pape François insiste énormément sur cette reconnaissance du péché. Ce n'est pas relayé par les médias de la même manière que d'autres choses, mais ça fait partie des points saillants de son enseignement, de dire « n'ayez pas peur ». D'ailleurs, dans le livre, dans l'interview dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il dit hein, « n'ayez pas peur de regarder votre péché, n'ayez pas peur d'avoir honte de votre péché ». Parce qu'au contraire, la honte, ça permet de désirer la miséricorde. Parce que si on n'a pas honte de son péché, évidemment, on peut vivre avec, sans que ça nous bouleverse trop. Voilà. Donc, il insiste beaucoup là-dessus, reconnaître son péché, mais dans un but très, très, très précis. C'est pour faire l'expérience de la miséricorde divine et de la conversion. De faire l'expérience de la miséricorde que Dieu nous donne. Reconnaître notre péché, alors ça se fait à travers un examen de conscience. C'est pas trop à la mode, mais il faut bien se dire que de temps en temps, de s'arrêter, et quand on est à l'adoration, ça peut être l'occasion. Il ne faut pas faire que ça. Hein. D'accord. Mais devant le Seigneur, présent, de réfléchir à ma vie, et de réfléchir à mes actes, à mes paroles, à mes pensées et à mes omissions. Il suffit de reprendre le « Je confesse à Dieu » pour savoir un peu les points, de réfléchir à mon rapport à Dieu, mon rapport aux autres, mon rapport à moi-même, etc. Donc ça peut être l'occasion de faire un examen de conscience. Quand ça revient toutes les semaines, c'est bien, et même plus, c'est bien aussi. Et puis, une autre manière de faire aussi, complémentaire, c'est de contempler la sainteté, la perfection de Dieu. Donc là, devant à l'adoration, on est devant l'être suprême, pur et saint, et donc vis-à-vis de lui, comme par contraste, on peut découvrir, dévoiler notre nature de péché, pécheresse. C'est ainsi que quand on arrivera au ciel, Dieu n'aura pas besoin de nous juger. Nous allons nous juger nous-mêmes. C'est le catéchisme qui le dit. Hein. Quand on arrive au ciel, eh bien, devant la perfection, la lumière de Dieu, nous voyons toute notre impureté. Et d'un seul coup, on va demander la purification du purgatoire pour pouvoir nous présenter de façon parfaite, c'est-à-dire on va demander de cette purification que nous devons désirer déjà sur terre. Et puis aussi, il y a la possibilité pour faire un examen de conscience, c'est de lire la parole de Dieu, de se remettre devant la parole de Dieu. Tous les passages de la Bible sont inspirés par le Saint-Esprit. Certains passages sont particulièrement percutants parce qu'ils nous rejoignent plus facilement. En tout cas, lire la parole de Dieu nous aide parfois à démasquer en nous ce qui est de connivence avec le mal ou bien de tiédeur, etc. Voilà pour le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation est un vrai cadeau du ciel, même si c'est difficile à vivre, j'en ai conscience, je sais que pour beaucoup, enfin, pour tout le monde, c'est une démarche pas facile. Il n'empêche que c'est un sacrement, c'est normal que ce soit pas facile. On ne vient pas présenter le meilleur de nous-mêmes. Donc ça, la démarche est difficile. Mais c'est une véritable cure de purification et d'embellissement. Et le Seigneur nous purifie réellement. Hein, il intervient. Et nous expérimentons la miséricorde dans ce contexte qui fait que après, il est plus facile pour nous d'en vivre au quotidien. L'Eucharistie, maintenant. Le deuxième sacrement, c'est l'Eucharistie. Alors, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est pour ça que nous pouvons l'adorer autant que nous voulons, parce qu'en fait, dans le sacrement de l'Eucharistie, tout est là. Tout est présent, tout est résumé, tout est inclus. C'est le mystère même de Dieu qui nous est dévoilé. C'est le mystère de notre rédemption. C'est le mystère de l'amour de Dieu. On dit que Dieu est amour, eh bien, regardons l'Eucharistie, disons-nous, mais c'est incroyable que le Seigneur puisse être présent dans l'hostie pour réaliser qu'il nous aime. Parce que s'il est là, c'est pourquoi ? C'est par miséricorde, par amour. C'est par un amour miséricordieux qu'il est présent. Il se rend vulnérable. Et il se présente à nous, pauvrement, pour se donner comme nourriture. Voilà. Donc, adorer nous fait prendre conscience de la miséricorde de Dieu pour nous. Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir faire ce sacrement, le Seigneur, notre Seigneur? Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir créer ce sacrement de l'Eucharistie? Eh bien, c'est vraiment sa miséricorde et son amour. Dans ce sacrement, non seulement la grâce de Dieu nous est communiquée, comme dans les autres sacrements, je parlais du sacrement du pardon, mais on peut prendre tous les autres sacrements, le point commun de tous les sacrements, c'est que la grâce de Dieu est communiquée aux hommes. Par l'action du Christ dans son Église, par la liturgie, qui est une action du Christ. Mais c'est la grâce de Dieu qui est communiquée. Dans le sacrement de l'Eucharistie, ce qui est très particulier, c'est que bien sûr, il y a la grâce de Dieu qui est communiquée, mais pas seulement. C'est que Dieu est rendu présent. C'est-à-dire, non seulement la grâce de Dieu est communiquée, mais en plus, Dieu est là. Donc, c'est pour ça que c'est le plus grand de tous les sacrements. C'est parce que Dieu est présent. Se rend présent sous une forme sacramentelle, sous les saintes espèces. Et l'œuvre de salut est actualisée. C'est-à-dire que la mort et la résurrection de Jésus nous est présentée. Nous ne sommes pas désavantagés par rapport aux apôtres. Mais les apôtres n'étaient même pas au pied de la croix, donc ce n'est même pas eux. Par rapport à Saint Jean au pied de la croix. Nous ne sommes pas désavantagés. Nous ne sommes pas désavantagés par rapport à Sainte Marie-Madeleine devant le tombeau vide, puis ensuite devant Jésus qui se manifeste. Parce que le sacrement de l'Eucharistie nous rend présent l'événement. Donc voilà. Et donc, nous sommes donc invités à adorer le Seigneur. Donc, Sainte Faustine dit ceci, au numéro 1485, la miséricorde de Dieu cachée dans le très saint sacrement, voix du Seigneur qui nous dit du trône de sa miséricorde, venez à moi. La miséricorde de Dieu cachée dans le très saint sacrement, voix du Seigneur qui nous dit du trône de la miséricorde, venez à moi. À travers l'Eucharistie, le Seigneur nous dit, venez à sa miséricorde. Donc il faut nous laisser attirer par le sacrement de la miséricorde, qu'est l'Eucharistie. Alors, au numéro 1591, mon cœur m'attire là où mon Dieu est caché, où il demeure nuit et jour avec nous. Sous l'apparence de la blanche hostie, il dirige le monde entier et est en relation avec les âmes. Mon cœur m'attire là où mon Seigneur se cache. Où est son amour anéanti? Mais mon cœur sent que là est l'eau vive. C'est mon Dieu vivant, bien qu'un voile le cache. Se laisser attirer. Donc mon cœur m'attire là où mon Dieu est caché, là où il demeure jour et nuit, dans l'hostie. Au numéro 1718, il y a un passage où là est ajoutée l'idée qu'il faut aussi se donner, répondre au don de Dieu dans la miséricorde, au don de Dieu dans l'Eucharistie. Demeurer à tes pieds, Dieu caché, c'est le délice et le paradis de mon âme. Ici, tu me permets de te connaître inconcevable et tu me dis doucement, donne-moi ton cœur. Donne. Je pense que c'est un point important que l'Eucharistie peut nous donner, c'est que, comme dira la petite Thérèse, l'amour ne se paye que par l'amour. Comme dit saint Augustin, regarde ce que fait Dieu pour toi, et quand tu l'inviteras chez toi, ce que nous sommes invités à faire, invités dans nos vies, fais de même. Quand tu es invité chez quelqu'un, tu regardes comment tu es servi, puis ensuite quand tu l'invites chez toi, tu fais un peu pareil, en fait tu essaies pour l'inviter, pour le recevoir aussi bien. Eh bien, si c'est valable pour nous, entre nous, c'est d'autant plus valable avec le Seigneur. Donc, l'Eucharistie nous invite à notre tour, à nous donner et à répondre, amour pour amour, à répondre à l'amour de Dieu qui se donne par notre amour qui se donne. Au numéro 1751, ô Jésus, caché dans le très saint sacrement de l'autel, mon amour et mon unique miséricorde, je te recommande tous les besoins de mon âme et de mon corps. Tu peux me secourir et tu es la miséricorde même. En toi, j'ai mis toute ma confiance. Donc aussi une invitation à mettre notre confiance dans le Seigneur qui se présente à nous dans cet état de pauvreté. Il faut réaliser que le Seigneur nous fait une grande confiance. Quand vous vous retrouvez tout seul devant le Saint-Sacrement, avec le Saint-Sacrement, vous pourriez profaner le Saint-Sacrement. Parce que le Seigneur est vraiment présent. Dans une hostie profanée, le Seigneur est présent. Il ne souffre pas de façon physique parce que ce n'est pas du tout le même style de présence. Mais une profanation, c'est quelque chose, un acte très très grave puisque Dieu est bien présent dans l'hostie. Eh bien, il nous fait confiance. À chaque fois qu'il se donne à nous dans la communion, il nous fait confiance. Il fait confiance pour qu'on essaie de le recevoir de notre mieux. À notre tour, nous sommes invités nous-mêmes à mettre notre confiance en lui. Voilà. L'Eucharistie est une œuvre de miséricorde divine, de la miséricorde divine, je l'ai dit, mais je vais simplement revenir sur un aspect qu'a développé sainte Thérèse de Lisieux et d'autres, bien sûr. C'est l'abaissement de l'Eucharistie, dans la continuité, dans la suite d'abaissements successifs de Dieu pour venir vers nous. Le premier abaissement de Dieu, alors elle le développe dans, dans une petite récréation pieuse, comme on dit, petite scène de théâtre qu'elle faisait auprès de ses sœurs, qui s'appelle « Les anges à la crèche ». Donc une petite scène d'être pas très longue, mais qui avait toujours un petit enseignement. Donc Thérèse en a fait, on a fait plusieurs, mais il y en a entre autres celle-ci, « Les anges à la crèche ». Et là, elle développe les étapes de l'abaissement de Dieu. Première étape, c'est l'incarnation, le mystère de l'incarnation. Donc on aurait pu reprendre bibliquement l'épître aux Philippiens où il y a un passage où Dieu, où il nous est décrit que le Seigneur s'abaisse, il quitte sa divinité, même s'il ne la perd pas, il renonce à sa divinité, à l'expression de sa divinité pour s'incarner dans le corps d'un homme. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'une fois qu'il est homme, il ne va pas se contenter de vivre comme nous, dans notre petit confort tranquille, mais il va encore continuer à s'abaisser en étant accusé faussement et en étant crucifié sans être coupable et mourir pour nous. C'est le deuxième abaissement, c'est l'abaissement de la croix, le mystère de la croix. Et la petite Thérèse, ce sera pour elle aussi le mystère. Le premier mystère, c'est le mystère de la Sainte Face, Sainte Thérèse, enfant Jésus de la Sainte Face. Et puis le deuxième mystère, c'est le mystère de... Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, premier mystère, la crèche. Deuxième mystère, et de la Sainte Face. Donc c'est l'abaissement successif, c'est le mystère de la croix. Le Seigneur, moi j'aime à dire que le seul qui était non coupable est le condamné. Tous les autres, nous étions tous coupables. Mais le seul qui était non coupable est condamné, et il donne sa vie pour nous. Donc il s'abaisse volontairement, c'est un choix. Et la troisième étape, qu'il a fait juste avant et qui est très très lié au mystère de la croix et de la résurrection, c'est l'institution de l'Eucharistie, où là, le troisième abaissement, c'est l'abaissement dans le mystère eucharistique, dans la vulnérabilité de Dieu et dans ce don de Dieu aux hommes qui fait qu'il est entre nos mains. C'est l'Église qui en prend soin, mais l'Église est composée de l'ensemble des baptisés et avec un rôle particulier pour les prêtres, une responsabilité particulière pour les prêtres. Donc voilà, c'est les trois niveaux d'abaissement. Alors, je lis un tout petit extrait. Donc, c'est de la poésie de Thérèse. Contemplez, ange, mon frère, Jésus montant vers le ciel. Moi, je viens sur cette terre pour l'adorer à l'autel. Caché dans l'Eucharistie. Je vois le Dieu Tout-Puissant, je vois l'auteur de la vie, bien plus petit qu'un enfant. Désormais au sanctuaire, je veux fixer mon séjour, offrir à Dieu ma prière et l'hymne de mon amour. Je veux chanter sur ma lyre les charmes du Dieu caché. Je veux, en un saint délire, m'enivrer de sa beauté. Que ne suis-je au tabernacle, me mourir du Dieu d'amour, et par un très doux miracle, m'unir à lui chaque jour, en faisant allusion à la communion. Du moins à l'âme sainte, je veux prêter mon ardeur, afin que nulle crainte, elle approche du Sauveur. Alors maintenant, c'est l'ange de la Sainte Face qui intervient. Bon, c'est une petite scénette, donc. Divin Jésus, voilà bien la dernière limite de ton amour. Après avoir rendu visible aux faibles créatures la face adorable dont les séraphins ne peuvent soutenir l'éclat, tu veux la cacher sous un voile plus épais encore que celui de la nature humaine. Mais Jésus, je vois rayonner dans l'hostie la splendeur de ton visage. Ils ne sont point cachés pour moi tes charmes ravissants. Je vois ton ineffable regard pénétrer dans les âmes pures, les inviter à te recevoir. Comme la colombe qui se cache dans le creux de la pierre, ainsi tes épouses rechercheront-elles ton visage. Je vois leur cœur se tourner vers toi et venir se réfugier près du tabernacle de ton amour. Donc avec cette idée aussi de recherche permanente de cette présence qui est là, et de recherche de sa compagnie. Voilà, donc cet abaissement qui est le signe, donc on voit que dans l'Eucharistie, il y a le comble de la miséricorde de Dieu pour nous, dans cet abaissement. Et donc l'Eucharistie est un modèle pour changer notre vie. Donc Sainte Faustine, au numéro 1404, Jésus caché, en toi repose toute ma force. Depuis ma plus tendre enfance, le Seigneur Jésus, présent dans le très saint sacrement, m'a attiré vers lui. J'avais 7 ans lorsque j'assistais aux vêpres et le Seigneur Jésus était exposé dans l'ostensoir. Pour la première fois, alors, l'amour de Dieu se communiqua à moi et remplit mon petit cœur. Et le Seigneur me donna la compréhension des choses divines. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, mon amour pour Dieu caché s'est accru jusqu'à la plus étroite intimité. Toute la force de mon âme provient du très saint sacrement. Je passe chaque moment de liberté en conversation avec lui, il est mon maître. Donc toute la force de mon âme provient du très saint sacrement. Voilà, c'est l'Eucharistie a cette capacité de changer de vie, de changer nos vies. C'est pour ça aussi que quand on peut, en tout cas, on communie. Et comme le dit saint Augustin, eh bien, la digestion de cet aliment divin nous transforme. C'est-à-dire que voilà, il y a une inversion de nos fonctions naturelles. Au lieu de digérer les aliments pour que les aliments se transforment en nous-mêmes, comme c'est l'habitude, là, c'est l'inverse. L'Eucharistie bien reçue et bien digérée, entre guillemets, eh bien, nous transforme de l'intérieur et nous divinise. C'est une capacité. Alors, pour cela, eh bien, il y a une porte. La porte pour se laisser faire par le Saint-Sacrement. Et on voit bien que même dans la démarche par rapport au Saint-Sacrement, c'est quand même une démarche compliquée, dans le sens où il est difficile de croire en cette présence réelle du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Et c'est au moment du discours sur le pain de vie dans le chapitre 6 de Saint Jean que les disciples vont quitter Jésus. Beaucoup de disciples vont quitter Jésus. Jésus va même demander à ses apôtres s'ils ne veulent pas faire pareil. Parce que c'est une démarche difficile. Et donc il y a une porte. Cette porte, c'est l'humilité. Donc, je vais dire un petit mot là-dessus. Donc déjà, l'humilité, quand on adore le Saint-Sacrement, qu'on est des adorateurs du Seigneur dans le Saint-Sacrement, des amoureux du Saint-Sacrement, eh bien, l'humilité, c'est l'exemple du Seigneur. Il faut se laisser manger. Il faut pas mettre, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport à la miséricorde, les limites, elles ne sont qu'humaines. Au ciel, on ne se fera jamais, on ne sera jamais condamné pour des excès d'humilité, comme on ne sera jamais condamné pour des excès de miséricorde. Et de se laisser manger, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Ben bon, après, il faut nuancer au cas par cas, parce que... Bon, l'importance de l'humilité pour accueillir le Seigneur, réellement, pour le laisser nous transformer, pour répandre, pour accueillir la miséricorde et pour répandre cette miséricorde. On ne peut avancer sur le chemin de la miséricorde sans la vertu d'humilité. Alors je vais citer une grande sainte peu connue, sainte carmélite palestinienne, sainte Mariam de Bethléem. Elle a été canonisée par le pape François, mais a été béatifiée déjà depuis un bon moment. Et elle avait très bien compris, c'est une petite sœur toute simple, elle avait très bien compris combien l'humilité donnait l'accès à la miséricorde infinie de Dieu et ouvrait la porte du ciel. Elle a révélé, alors elle était favorisée de quelques extases. Ne soyez pas jaloux, parce que quand on est favorisé de quelques extases, on a aussi quelques croix supplémentaires. Donc si vous voulez plus souffrir, demandez des extases, sinon laissez faire le Seigneur. Le Seigneur m'a fait voir l'enfer et m'a dit, Il y a en enfer toute espèce de vertu, mais il n'y a pas l'humilité. Et au ciel, il y a toute espèce de défaut, mais il n'y a pas l'orgueil. C'est-à-dire que Dieu pardonne tout à l'âme humble et ne compte pour rien la vertu dépourvue d'humilité. Si vous avez toutes les vertus du monde, il manque l'humilité et notre cheminement spirituel ne peut pas avancer. Il n'y a pas pire que l'orgueilleux. On l'est tous un peu, hein, je vous rassure. Donc ça fait partie des trucs, si vous savez pas quoi confesser, vous pouvez toujours confesser l'orgueil. Après, il faut voir concrètement comment ça se réalise dans vos vies. Mais en général, on arrive toujours par trouver un truc. Hein. Il y a toujours un moment où on veut être un peu têtu, là, et puis voilà. Et en fait, c'est un peu d'orgueil caché. Voilà. En tout cas, donc, c'est l'humilité qui est la première des vertus à désirer. Et rentrer dans une démarche d'adoration, accueillir la miséricorde pour en vivre autour de nous, c'est par l'humilité qu'on peut le faire. Pour bien adorer, il faut demander cette grâce de l'humilité. La petite Thérèse avait une prière, je ne vais pas vous la dire, mais une petite prière sur, pour demander l'humilité, qu'elle disait souvent. Et donc, voilà, ça nous fait rentrer dans une bonne démarche, et c'est la vraie porte pour la miséricorde. Thérèse d'Avila considère que l'humilité est la fondation de tout l'édifice spirituel. Il n'y a pas pire que les orgueilleux spirituels. Encore plus que les orgueilleux d'habitude, qui ne sont pas toujours agréables. Mais en plus, si c'est spirituellement qu'on est orgueilleux, c'est horrible. L'extrémisme, les extrémistes religieux, c'est de cet ordre-là, hein. C'est de l'orgueil spirituel, en plus dans ce qu'on entend aujourd'hui dans l'erreur de leur vie, hein, dans une erreur de foi, une foi erronée, mais en plus il y a cet orgueil spirituel qui fait qu'ils peuvent tuer au nom de Dieu. Donc c'est terrible. On voit jusqu'où l'orgueil spirituel, il n'y a pas pire, donc je vous demande vraiment de demander au Seigneur d'en être protégé. Voilà. Alors là, je commence à sauter les passages parce que je vois que le temps passe. Simplement, je veux rappeler un truc, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé du sacrement du pardon. Il faut savoir aussi, il faut se rappeler que le sacrement de l'Eucharistie pardonne les péchés. Hein, c'est-à-dire les péchés de type véniel, c'est-à-dire les péchés pas très graves. Il n'empêche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller se confesser. Mais dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a cette grâce. L'Eucharistie contient tout. Il y a la mort et la résurrection de Jésus pour notre salut. Et donc, le pardon des péchés nous est donné. C'est pour ça que l'Eucharistie commence par une démarche pénitentielle au début. Ce n'est pas une démarche simplement formelle, mais c'est une démarche efficace. Donc voilà. Dans l'Eucharistie, on contemple cette miséricorde qui nous est donnée chaque jour, enfin chaque fois qu'on y participe, le Seigneur nous donne. De même quand on dit le Notre Père. Bon, l'Eucharistie nous aide à cheminer dans la sainteté. Bon, simplement peut-être quelque chose sur l'importance du désir. Sans désir, là aussi on n'avance pas. Il faut de l'humilité, mais si vous avez de l'humilité mais que vous ne désirez rien, ça risque de ne pas aller loin non plus. Alors, 1804... Le moment le plus solennel de ma vie, c'est le moment où je reçois la Sainte Communion. Je languis après chaque communion et pour chacune d'elles. Je rends grâce à la très sainte Trinité. Les anges, s'ils pouvaient nous envier quelque chose, nous envieraient deux choses. La première, c'est la Sainte Communion, et la seconde, c'est la souffrance. Les anges ne peuvent pas vivre ça. Aujourd'hui, je me prépare à ta venue, comme une épouse pour la venue de son époux. C'est un grand Seigneur que mon bien-aimé. Les cieux ne peuvent le contenir. Les séraphins qui se tiennent le plus près de lui voient leur face et répètent sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Ce grand Seigneur, c'est mon époux. C'est pour lui que chantent les chœurs, c'est devant lui que tombent les trônes, devant sa clarté, le soleil s'éteint. Et cependant, ce grand Seigneur est mon époux. Ô mon cœur, sors de cette profonde méditation sur la manière dont les autres l'adorent, car tu n'as plus assez de temps pour cela. Et il s'approche, et déjà il est à la porte. Sors à sa rencontre, il t'invite dans la demeure de mon cœur. Faisant allusion à la communion. Le Notre Père, je ne sais pas si vous dites le Notre Père devant le Saint-Sacrement quand vous priez, quand vous adorez, mais c'est une prière à la fois d'adoration et de miséricorde. Il suffit de se souvenir du déroulement. Le catéchisme d'Église catholique au numéro 240 dit ceci, « Or, et c'est redoutable, ce flot de miséricorde ne peut pénétrer notre cœur tant que nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés, faisant allusion à la finale de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, ça c'est pas une erreur de traduction, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'amour, comme le corps du Christ, est indivisible. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas nos frères, la sœur que nous voyons. Faisant allusion à la première épître de Jean. Dans le refus de pardonner à nos frères et sœurs, notre cœur se referme, sa dureté le rend imperméable à l'amour miséricordieux du Père. Dans la confession de notre péché, notre cœur est ouvert à sa grâce. Donc il faut vraiment tenir les deux. On ne peut pas aller au sacrement du pardon ou d'espérer la miséricorde de Dieu pour nous, si nous-mêmes, nous ne faisons pas tout notre possible pour être miséricordieux envers nos frères. À l'adoration, comme acte de miséricorde, nous pouvons prier pour nos frères. C'est l'importance de la prière, de façon générale, et la prière d'adoration en particulier, pour les autres. Alors, numéro 223. Vivante hostie, mon unique force, source d'amour et de miséricorde, empare-toi du monde entier, fortifie les âmes défaillantes. Ô instant béni où Jésus nous laissa son corps très miséricordieux. Et puis l'importance de la prière d'intercession au numéro 355. Hostie sainte, qui contient le testament de ta miséricorde divine pour nous et spécialement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, qui contient le corps et le sang de Jésus comme preuve de l'infinie miséricorde envers nous et spécialement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, qui contient la vie éternelle qui nous est abondamment accordée par l'infinie miséricorde, particulièrement aux pauvres pécheurs. Hostie sainte, qui contient la miséricorde du Père, du Fils et du Saint-Esprit envers nous et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, qui contient le prix infini de la miséricorde, qui paiera toutes nos dettes et particulièrement celles des pauvres pécheurs. Hostie sainte, qui contient la source d'eau vive, jaillissante de l'infinie miséricorde pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs, etc. etc. Parce que c'est assez long, hein, numéro 356, je vous conseille de le lire. Hostie 5, Hostie Sainte, notre unique espoir au milieu de la fausseté et des trahisons. Hostie Sainte, notre unique espoir au milieu des ténèbres et de l'impiété qui submerge la terre. Hostie Sainte, notre unique espoir au milieu de la nostalgie et de la douleur où personne ne nous comprend. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu du travail pénible et de la monotonie de la vie quotidienne. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu de la destruction de nos espoirs et de nos efforts. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu des ravages de l'ennemi et des efforts de l'enfer. Hostie sainte, j'ai confiance en toi lorsque les fardeaux dépassent les forces et quand je verrai l'inutilité de mes efforts, etc. Toujours est-il que, à l'adoration, nous pouvons vraiment déposer tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes devant le Seigneur, et déposer aussi tout ce que sont nos frères, et toutes les souffrances, les difficultés de nos frères et sœurs, et prier pour eux. Elle fait aussi une allusion à la prière pour les malades. Au numéro 826. Ce matin, j'ai eu une mésaventure. Ma montre s'était arrêtée et je ne savais pas quand me lever. Et je ne voulais pas omettre la Sainte Communion. Il faisait toujours nuit et je ne pouvais pas savoir quand il faudrait me lever. Je m'habillais, je fis la méditation et je suis allé à la chapelle. Mais tout était fermé et le silence régnait partout. Je me suis plongé dans la prière, surtout pour les malades. Maintenant, je vois combien les malades ont besoin de prière. Enfin, la chapelle fut ouverte. La prière me venait avec peine. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on a de la peine de prier qu'il faut arrêter de prier. Parce qu'on voit qu'elle prie quand même. Car je me sentais exténué, et après la Sainte Communion, je revins tout de suite dans ma solitude. Alors je vis le Seigneur qui me dit, « Sache, ma fille, que l'ardeur de ton cœur m'est agréable. Comme tu désires ardemment t'unir avec moi dans la Sainte Communion, moi aussi, je désire me donner complètement à toi. Et comme récompense pour ton ardeur, repose-toi près de mon cœur. » À cet instant, mon âme se noya dans son essence, etc. Voilà. Importance de la prière et des œuvres spirituelles, des œuvres de miséricorde spirituelle, et importante, bien sûr, des œuvres de miséricorde matérielle, concrète. Le Saint-Sacrement change notre regard sur les autres et sur les événements. C'est un point important aussi à demander. Le fait qu'on adore, on regarde, même si on ne regarde pas tout le temps, on ne fixe pas tout le temps le Saint-Sacrement, il n'empêche que là aussi, si on se laisse faire, il faut laisser le Seigneur purifier notre regard pour changer notre regard sur les autres, pour regarder les autres avec le regard même de Dieu et regarder aussi les événements. C'est normal que nous, chrétiens, nous ayons la joie, la chance de regarder les événements différemment que ceux qui n'ont pas la foi. Déjà parce qu'il y a l'espérance, enfin, il faudrait développer, mais déjà parce qu'il y a l'espérance, mais aussi parce que, en fait, nous savons que les tribulations doivent passer. Le mystère de la croix est planté dans notre monde. Voilà, ça c'est des choses qu'on sait, donc il n'y a pas à s'en inquiéter plus qu'il ne le faudrait. Et il faut prendre notre poste de veilleur au sein de ce monde, être témoin de la miséricorde divine et de l'amour divin. Alors, au numéro 1748, ouais, là, il faut que j'arrête, là, parce que ça commence à faire mal. Sois adoré, Seigneur, dans l'œuvre de ta miséricorde. Sois béni dans tous les cœurs fidèles qui sont sous ton regard et qui vivent de ta vie immortelle. Voilà. Qui sont sous ton regard et qui vivent de ta vie immortelle. Bon, je vais terminer sans les citations, parce que je n'ai pas fait attention, mais il y a une idée qui est réelle. On ressemble à qui l'on fréquente. Si on fréquente des gens de mauvaises intentions, qui ont toujours des mauvaises paroles, des jugements, etc., de mauvais comportements, il y a de grandes chances que l'on soit influencé, même si au départ on se dit non, petit à petit, voilà, on va se laisser influencer par ces comportements qui nous environnent pour pouvoir retourner vers ces gens-là. En général, il faudra faire un travail de purification important intérieure et très solide intérieurement. Mais au début, voilà, c'est très très courant dans les cas de conversion ou bien dans les jeunes qui veulent changer de vie. Eh bien, il y a vraiment des choix entre les amis. Il y a les amis qui vont, qui vont boire excessivement, qui vont faire des excès, et puis d'autres amis qui vont savoir se faire la fête aussi, mais de façon plus juste, et donc il va falloir choisir entre ces amis pour pouvoir ne pas sombrer, parce que nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas solides. Donc on finit par ressembler à ceux que l'on fréquente. Alors c'est particulièrement vrai, enfin donc c'est d'autant plus vrai pour la question de l'Eucharistie. Si vous fréquentez l'Eucharistie, l'adoration eucharistique, et bien vous finirez par ressembler à celui que vous fréquentez le plus, à celui avec qui vous dialoguez le plus. Hein, donc ça c'est une réalité, même psychologique. Voilà. Bon, je vais terminer simplement en disant que je n'ai pas évoqué la Vierge Marie, mais pour bien nous apprendre à accueillir la grâce du Saint-Sacrement et la miséricorde de Dieu dans notre vie, eh bien, rien de tel que de prendre Marie avec soi, qui peut nous aider à changer de cœur et de vie. Amen.